Bon, je ne suis pas sponsorisé par Jiffy pour venir parler ce matin. Voilà, je prépare donc les affaires. Vous allez bien ? Super. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Frères et sœurs des églises de Villers et de Vendeuvre, qui êtes fondés en Christ, et à vous qui ne faites pas non plus partie de l'une ou de l'autre des églises, que Dieu vous bénisse et vive puissamment dans vos cœurs par l'Esprit du Christ qui vit en chacun de vous. Oui, poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, car au milieu de vous, il est très grand, lui le Saint d'Israël. Amen. Il est grand. Voilà, donc ce matin, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Courtin, donc j'étais pas au début de l'église de Vendeuvre, mais je l'ai rejoint, je pense, en 86, c'est ça, à peu près, quoi. Et on n'est plus à quelques années près. Et je vais faire une prédication, et j'ai l'habitude de mettre des dessins, vous voyez. Alors, ce sont pas des dessins d'art, ce sont, pas comme Cham, par exemple, qui fait des beaux dessins. Moi, je fais simplement des dessins que m'inspire le Saint-Esprit. Ce matin, je les mets à votre disposition, je vous les donne, je vous les offre. Essayez pas de les revendre, parce qu'il n'y a aucune valeur commerciale. Hein. Simplement, c'est que pour que vous puissiez les méditer. Un boxeur, par exemple, comme Mike Tyson, aurait pu dire, le soir où il a remporté le titre de champion du monde des poids lourds, « J'ai combattu le bon combat ». Un sprinteur de génie, comme Carl Lewis, aurait pu s'écrier à l'aube de sa brillante carrière, « J'ai achevé la course ». Pourtant, aucun de ces deux champions n'a prononcé une telle phrase. Alors dans la Bible, dans sa seconde lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, dit Paul, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent la venue de Jésus. » C'est-à-dire, nous tous, enfin je l'espère, hein, que vous attendez tous le retour de Jésus. Comme vous le voyez, l'apôtre Paul, arrivé au terme de sa vie, fait le bilan d'une existence chrétienne accomplie. Il a tout donné pour Dieu depuis sa belle rencontre avec Jésus sur la route de Damas. Il a affronté avec succès les souffrances, les persécutions, les combats que lui ont imposé l'ennemi, et il a conservé sa foi en Dieu. La récompense que Dieu réserve à celles et ceux qui travaillent à leur salut jusqu'au bout lui est assurée. Paul est déjà entré de plein pied dans la vie éternelle en recevant Jésus-Christ dans son cœur. Il est maintenant prêt à recevoir la belle récompense que Dieu accorde à toutes celles et ceux qui conservent la foi jusqu'au bout du chemin. À la fin de sa vie, Paul peut dire en toute sérénité qu'il a été fidèle à son appel. Il peut donc affronter la mort avec calme, sachant qu'il sera récompensé par le Christ. Frères, sœurs, notre vie nous prépare-t-elle à une mort sereine? Bon, le plus tard possible, mais est-ce que vraiment elle nous prépare à une mort sereine? Comme l'apôtre Paul, préparons-nous cette rencontre, ce face-à-face avec Christ, en opérant régulièrement, par exemple, des bilans dans notre vie? Attendons-nous avec confiance le retour du Christ? Ces paroles de Paul nous encouragent à poursuivre le combat, même s'il nous semble difficile. Lorsque nous serons avec Christ, nous verrons, frères et sœurs, que cela en valait véritablement la peine. Vous savez, il y a quelques années, j'étais dans cette salle et j'apportais un message sur le combat spirituel dans nos vies. Et à l'issue du culte, y a un monsieur qui est venu me voir, un frère qui est venu me voir, et je l'en remercie pour m'avouer hey « Daniel, je ne savais même pas qu'il existait un combat spirituel ». Alors cet aveu honnête en dit long sur notre état spirituel et donc notre capacité à nous défendre contre un ennemi qui n'a aucun respect ni pour Dieu ni pour nous et nous livre une guerre spirituelle sans merci. Alors en réalité, ce sont essentiellement les apôtres Pierre et Paul qui nous ouvrent les yeux sur la réalité du combat spirituel. L'apôtre Pierre, lui, y décrit l'ennemi de nos âmes et de nos vies en le comparant à un fauve effrayant. Alors en réalité, il est effrayant dans sa profondeur spirituelle, car en apparence, il est plutôt séducteur. Dans 1 Pierre 5,8, il écrit « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Alors ce monstre symbolique est l'image du diable qui est à la fois une créature divine, parce qu'elle a été créée par Dieu, mais aussi le plus puissant de tous les esprits déchus après avoir tenté de prendre la place de Dieu. Ce qui, vous le savez, est impossible. Et qui en dit long sur ses prétentions. Cet ange déchu tient en réalité sous sa coupe l'être humain dont il a fait un esclave parfaitement obéissant en le soumettant à la puissance du péché, dès l'origine du monde. Et ce lion rugissant est le prince de ce monde pécheur qui lui est spirituellement soumis. Vous savez, dans le livre de Job, vous vous en souvenez certainement, au chapitre 1, verset 6, Dieu demande à Satan « D'où viens-tu donc ?» Alors celui-ci répondit « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Frères, sœurs, vous pensez bien que si le diable parcourt et sillonne la terre, ce n'est certainement pas pour se dégourdir les jambes ou faire un petit peu de footing. Non, si le lion rôde, c'est pour trouver quelqu'un à dévorer. Et le diable est un fauve carnivore qui cherche des victimes spirituelles. Pour Satan, le véritable ennemi après Dieu, ce sont toutes les femmes et tous les hommes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui ont été libérés de la puissance du péché par la croix et affranchis de l'autorité de Satan. Tout chrétien né de nouveau est devenu une cible potentielle pour le diable, un adversaire à combattre et à abattre. Alors frères et sœurs, soyez-en convaincus, ce matin, nous sommes bien tous ici ce quelqu'un à dévorer par le diable. Dans la Bible, en Matthieu 28, verset 20, Jésus nous gratifie de ce merveilleux encouragement dans le combat spirituel quotidien, un encouragement que tous ceux qui aiment Jésus devraient connaître par cœur. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Frères, sœurs, Jésus est-il avec nous ce matin? Il est là? Amen. Merci. Vous savez, si Jésus est bien avec nous chaque jour, nous devons être vigilants car Satan, lui, ne désarme jamais et sa pensée profonde, non biblique, pourrait être celle-ci. Voici, je vous combattrai moi-même, moi et mes sbires, tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'ennemi invisible, mais bien réel, ne connaît ni détente, ni repos, ni relâche. Il rôde, il harcèle, il combat sur deux fronts. Le premier front, c'est, vous savez, en tant que prince de ce monde, eh bien, il combat le monde sans Dieu. En réalité, le diable manipule tel une marionnette l'homme sans Dieu. Il l'incite à pécher, il crée des injustices et des divisions qui débouchent sur des guerres. Il aveugle l'homme naturel et le rend sourd à l'appel de Dieu. et à sa parole. Il l'emmène tranquillement mais sûrement vers la mort éternelle. Il l'excite également à lutter contre le peuple de Dieu et il l'incite par la haine à le persécuter. Moi, j'avais un peu plus de 30 ans. J'étais tellement mal dans ma vie, je suis parti en Équateur. Et là, j'étais encore tellement mal que quelqu'un m'avait dit « Mais si t'es mal, crie à Dieu ». J'ai crié à Dieu, ce Dieu que je ne connaissais pas. Il m'a répondu « Daniel, pourquoi écoutes-tu Satan ?» Vous voyez, Satan, il nous parle et nous, on l'écoute. Le deuxième front, c'est le diable combat le peuple chrétien. Le diable a la capacité d'harceler le peuple de Dieu, de faire peur aux croyants par les épreuves qu'il leur impose. Il interfère dans leurs pensées, il cherche à les décourager, à les frapper par les accidents et les maladies de la vie, à les tromper en détournant la parole de Dieu, en créant des divisions, tout d'abord dans le couple, dans la famille, dans l'Église, puis en opérant des tentations charnelles et en réactivant nos blessures du passé et bien d'autres choses. Vivez-vous de telles situations ce matin ? Peut-être ce matin êtes-vous perplexe, pardon, et vous demandez-vous comment est-ce possible qu'un chrétien né de nouveau, libéré du péché, à la croix par le sang précieux du Christ, libéré de l'esclavage de Satan, eh bien puisse encore être sous l'emprise de l'ennemi. Comment c'est possible ? Rassurez-vous, hein, les apôtres Pierre et Paul, Jésus lui-même, ont été soumis à ces attaques en règle. Alors comment est-ce possible ? Bien, je vais faire un très très bref rappel. Frères, sœurs, vous le savez, l'homme, la femme que nous étions autrefois, avant la conversion, avant que notre cœur s'ouvre à Jésus, a été crucifié, cet homme ou cette femme, déposé comme un vêtement sur un porte-manteau, lorsque nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Le vieil homme, la vieille femme crucifiée, ont fait place à une nature régénérée, le nouvel homme, la nouvelle femme. Cette nouvelle nature a perdu son pouvoir de rendre esclave du péché. On n'est plus esclave du péché aujourd'hui. Alors d'après vous, moi je vous pose une question ce matin. Si nous sommes morts avec le Christ, si nous vivons avec lui, si nous nous considérons comme morts par rapport au péché et vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ, sommes-nous encore porteurs du péché ? Qui pense que oui, qui pense que non ? Qui pense que oui ? Qui pense que non ? Il y en a qui ne se prononcent pas. Ah oui, bien sûr, chers amis. Car nous renaissons avec un corps auquel est toujours étroitement attaché le péché. Le péché, il est toujours lié à la nature charnelle, il est toujours lié au corps. Et le péché, dont le pouvoir esclavagiste a été et néfaste, a été atténué par son passage à la croix. Donc vous voyez, si on résume, hein, on est toujours porteur du péché, mais seulement il a été atténué et maintenant on n'est plus du tout esclave du péché. Mais en même temps, lorsque Jésus entre dans nos cœurs, Jésus nous fait naître de l'Esprit selon sa promesse. Jean 16, rappelez-vous ce que disait Jésus, « Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il descendra sur vous avec puissance et vous conduira dans la vérité tout entière. » Frères et sœurs, aujourd'hui cette promesse est accomplie. C'est une bonne nouvelle, nous avons tous, enfin j'espère, reçu le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous ? » Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous ? Oula ! Je ne vous apprends rien ce matin. Hein ? Le Saint-Esprit habite en toute personne née de nouveau. Aujourd'hui, nous ne sommes plus uniquement charnels, mais aussi spirituels. D'un côté, par ma chair, je suis faible, mais par l'Esprit qui vit en moi, Eh bien, je suis fort. Voilà pourquoi Paul, dans le combat spirituel, exhorte les chrétiens de Galatie, mais aussi de Villers et aussi de Vendeuvre ce matin, à activer le Saint-Esprit qui réside en eux. Galates 6,16. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de la nature charnelle. Amen. Ainsi donc, l'ennemi peut encore nous atteindre par la chair, mais nous pouvons lui répondre puissamment en marchant par le Saint-Esprit qui est Dieu. Nous y reviendrons dans quelques instants, dans la dernière partie de ce message. Alors, l'ennemi de nos vies et de nos âmes a trois grandes armes contre nous. Alors la première, nous en avons parlé, notre nature charnelle qu'il peut éprouver et tenter. Là, j'y reviens pas, on en a parlé. La deuxième, notre manque d'investissement spirituel, la faiblesse de notre foi, de nos convictions, la pauvreté de notre relation avec Dieu, et ça, nous en reparlerons. Et puis, troisièmement, la ruse. L'ennemi de nos âmes et de nos vies est aussi appelé le malin. Il use de toute une panoplie de ruses que nous n'avons pas le temps de développer ce matin. Mais, je vais en dire une quand même, l'une des ruses de Satan que nous dévoile l'apôtre Paul se trouve en Éphésiens 6,12. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Satan se cache derrière l'homme pour nous combattre en disant « Ce n'est pas moi, c'est lui. » Vous voyez ? Petite marionnette. « C'est pas moi, c'est lui qui fait du mal. » Et quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, hein, c'est, vous savez, c'est s'il y a des guerres, comment un Dieu aussi bon peut permettre qu'il y ait des guerres ? Comment un Dieu si juste peut permettre que des enfants meurent tôt dans 2, 3 mois, 6 mois, 3 ans ? Comment un Dieu bon, comment un Dieu juste ? Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce verset de Paul est capital. Pourquoi ? Car si nous combattons la marionnette au lieu du marionnettiste, si nous combattons l'être humain derrière lequel se trouve le diable, eh bien nous sommes comme Don Quichotte qui combattait les moulins à vent. Non seulement ça ne sert à rien, ça ne résout rien, mais ça complique encore les choses. Alors que Jésus expliquait sa mission terrestre salvatrice à ses disciples, Pierre le prit à part et lui fit des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Frères, sœurs, vous savez que dans son amour pour Jésus, dans sa peur de le voir souffrir et mourir, Pierre se fait l'avocat de l'ennemi et l'adversaire de Jésus. Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Jésus aurait pu se disputer avec Pierre, le renvoyer, s'en prendre à lui. Mais derrière Pierre, il a tout de suite discerné la présence et l'intervention de l'ennemi. Il a visé le marionnettiste et non la marionnette. Si nous combattons la chair et le sang, si nous combattons notre épouse, nos enfants, nos collègues de travail, nos voisins, nos frères et sœurs en Christ, les juifs, les musulmans, les incroyants, nous nous trompons de combat. Nous combattons le mauvais combat au lieu du bon. Le bon combat, lui, consiste avant tout à aimer son prochain comme soi-même, tout en dénonçant et en combattant l'ennemi de nos vies et de nos âmes. C'est lui qu'il faut combattre, c'est pas son prochain. Alors, dans tout ça, on a quand même des armes, nous. On n'est pas désarmés. Les armes du chrétien. Alors, dans le combat contre les forces du mal, eh bien, le chrétien n'est pas seul. Il n'est pas sans solution. Non seulement il a à sa disposition des armes pour combattre, mais bien plus, il a déjà, en Jésus-Christ, remporté le combat. Pour vivre la victoire en Jésus-Christ, le chrétien doit pratiquer trois marches. Marcher par la foi, marcher dans la vérité, marcher par l'esprit. En effet, ces trois marches nous invitent à ne pas être spectateurs, mais acteurs du combat. Alors je ne vous apprends rien, frères et sœurs, mais il est bon de le redire, Dieu est déjà vainqueur de Satan. Oui, c'est à la croix de Golgotha qu'en Jésus-Christ, il a remporté pour l'homme la victoire sur le péché, sur la mort éternelle et sur l'ennemi puissant qui nous asservissait. L'apôtre Paul, dans sa belle lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, rappelle les contours de cette belle et grande victoire. Oui, vous étiez morts par vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant à Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusait, car il mentionnait toutes nos transgressions de la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé les autorités et dominations de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers, il les a traînés derrière son char triomphal à la croix. Amen.
Amen.
Vous savez, en sport, une victoire est source de joie, mais aussi un événement important pour un club. Et je pense par exemple à Guillaume ce matin, qui est supporter du SPUC Basket. Quand ce club qui gagne peu, enfin plus que le RS Lorraine peut-être, lorsqu'il remporte une victoire, eh bien, Guillaume, il entre en transe. Paul, lui, va beaucoup plus loin. Dans la certitude de la victoire, il écrit, Romains 8, 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Frères, sœurs, nous connaissons le terme « vainqueur ». Mais que signifie être plus que vainqueur? C'est incroyable. Alors j'ai posé cette question lors de notre formation au post-baptême, et Anaïs m'a donné une très très belle réponse que je vous livre ce matin. C'est une victoire accompagnée de nombreuses bénédictions. C'est vraiment une très belle définition. Mais personnellement, moi j'oserais encore aller plus loin. Pour moi, être plus que vainqueur veut dire que grâce à la victoire de Jésus, nous possédons une victoire totale et définitive. Vous imaginez un SLUC basket qui serait plus que vainqueur? Mais il serait champion du monde des clubs. Cette expression qui, à ma connaissance, n'existe que dans la Bible, veut dire que non seulement en Jésus-Christ, on a gagné, mais qu'on ne peut plus perdre sa liberté pour laquelle Jésus est mort. On ne peut plus nous ravir notre salut. On ne peut plus perdre notre vie éternelle pour laquelle Jésus a versé son sang. On ne peut plus perdre l'amour de Dieu exprimé avec puissance à Golgotha. Amen. Romains 8, 38, « Oui, j'en ai l'absolue certitude, dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. »
Amen.
Frères, sœurs, Jésus n'a pas remporté une victoire, mais la victoire à la croix. Il n'a pas gagné un combat, il nous a assuré une victoire totale et définitive à Golgotha. Alors, les différentes marches, marcher par la foi. Franchement, je vous pose la question, qu'avons-nous fait pour remporter cette belle et grande victoire? Rien. Absolument rien. C'est un cadeau, c'est gratuit, c'est immérité. Nous n'avons rien fait pour mériter une telle victoire. Christ seul a lui-même tout accompli pour nous à la croix. Jean 19, 30, « Avant de rendre l'esprit, Jésus s'écria, « Tout est accompli. Tout. Tout. » Ce n'est pas pour rien que Jésus a tout accompli pour nous à la croix. C'est au contraire pour que nous nous approprions cette victoire offerte, cette grâce accordée. Vous imaginez, quelqu'un vient chez vous, que vous avez invité, il vous amène des fleurs, un paquet de bonbons, il vous amène un cadeau, et vous dites « Oh non, j'en veux pas, je ne l'ai pas mérité. Non, non, repars avec ton cadeau, j'en veux pas. » C'est pas normal. S'approprier, c'est se rendre propriétaire, s'emparer, s'attribuer la paternité de ce qu'on m'offre, s'attribuer la paternité de ce que Jésus a fait gracieusement pour moi, ça s'appelle la foi. Vous savez, quand la S Nancy gagne, qu'est-ce qu'on dit ? On a gagné. Et quand ils sont défaits, ils ont perdu. S'approprier, c'est s'approprier vraiment la victoire de son club. Je crois, je m'approprie et je marche par la foi. S'approprier la victoire de Jésus nous rend plus que vainqueurs dans le combat spirituel. Ça, c'est la foi en action. En réalité, tout repose sur la foi que je place réellement en Dieu. Elle doit être ferme, inébranlable et s'appuyer sur des convictions fermes et solides. Sans cette foi ferme, nous sommes toujours à la merci des flèches enflammées du malin qui ont pour nom le doute, les fausses croyances, les craintes, les peurs. Satan, le menteur, essaye d'ébranler la solidité de notre foi régulièrement. L'apôtre Paul nous donne un conseil précieux dans la guerre qui nous oppose au diable et à sa clique. Éphésiens 6:10. Il dit « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Frères, sœurs, nous qui par définition sommes faibles par notre chair, Dieu nous donne, par la relation d'intimité que nous créons et entretenons avec lui, la force et la puissance nécessaire pour combattre l'ennemi. Par exemple, quand nous prions, quand nous adorons et louons, comme ce matin, hein, avec les sœurs africaines, mais c'était merveilleux, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes remplis d'une force et d'une puissance spirituelle qui, là aussi, nous rendent plus que vainqueurs dans le combat. C'est ça qui fait notre force. On va puiser dans la force que Dieu nous donne. Puisons-nous notre force dans le Seigneur et sa grande puissance ? Est-ce que nous faisons cela ? Le deuxième, c'est marcher dans la vérité. Alors Satan et ses sbires diaboliques ont échangé délibérément la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Vous savez, nous évoluons dans un monde où on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Chacun a sa propre vérité. Et dans le combat spirituel, nous avons besoin de nous appuyer sur la force de vérité qui se trouve dans la Bible, qui est la pensée vraie et profonde du Créateur du monde. Psaume 119, verset 160, le dit clairement, « La vérité, tel est le fondement de ta parole. » Voilà, si vous voulez être dans la vérité, lisez la Bible, imprégnez-vous d'elle. Alors, je vais ce matin vous poser une question importante. Qui parmi vous ne possède pas de téléphone portable ? Oh, c'est pas vrai. C'est extraordinaire parce que c'est rare. Même moi, j'en ai un. Bon. Alors, vous savez que votre portable est alimenté par une batterie qu'il faut régulièrement recharger. Et généralement, on n'oublie pas de recharger son portable, sinon c'est la cata. Alors, je vous demande, pourquoi oublie-t-on très souvent ce qui est 100 fois, 1000 fois plus important dans nos vies, nous recharger spirituellement dans notre relation avec Dieu en lisant chaque jour la Bible qui alimente notre foi. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors frères, sœurs, l'ennemi dans sa malignité a fort bien compris qu'en nous privant de cette divine source, eh bien, il nous rend très vulnérables dans le combat. Nous avons alors une épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, mais totalement inutilisable, si on ne la lit pas. Pour nous rendre inoffensifs, il va nous entraîner dans une foule d'activités qui nous font dire « Oh mon Dieu, j'ai pas le temps de... J'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps de la lire. » Mes chers amis, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies ? Il nous inonde aussi de soucis et de problèmes qui, là encore, nous font dire « Mais j'ai tellement de soucis que je n'ai pas le cœur à lire la Bible. » Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous donne ce sage conseil, 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » En me déchargeant, ben, j'ai la possibilité de... Ben, moi, je n'ai pas de problème parce que j'ai une maladie neurologique et je me lève tous les matins de bonne heure parce que je n'arrive pas à rester très longtemps au lit. Donc je peux lire ma Bible le matin de bonne heure, donc c'est une chance. Mais on peut mettre aussi le réveil. La troisième marche, marcher par l'esprit. Ah, mes amis, si vous voulez voir un responsable d'église, un ancien qui marche parfois selon la chair, venez chez moi lorsque je regarde des matchs de Coupe d'Europe de foot à la télé. Là, emporté par la passion et les émotions, mes filles et Wardia qui sont à l'étage m'entendent vociférer. Je râle après l'arbitre que je traite d'archi nul. Je m'énerve quand un joueur que je supporte rate un but tout fait. Je dis, mais même ma grand-mère en fauteuil roulant, elle l'aurait marqué. Alors, si je vous raconte mes soirées européennes, ce n'est pas pour me dénigrer devant vous, mais pour vous rappeler que, bien qu'étant le temple du Saint-Esprit, on peut marcher charnellement. J'ose à peine parler d'une chose qui ne vous arrive sûrement jamais, vous qui êtes des chrétiens et chrétiennes spirituelles. Il m'arrive de me disputer avec mon épouse Wardia.
Comment
pas se disputer ? Alors, rassure-toi, ça reste dans un langage quand même châtié, hein, on reste poli. Mais lorsque nous nous énervons, nous pouvons être en colère l'un contre l'autre. Ça vous arrive jamais, je suppose, ça, de faire des choses comme ça, hein. Alors, lorsque nous marchons ainsi dans notre couple, selon la chair, nous ouvrons une porte qui donne accès au diable. Alors, voilà pourquoi Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point !» La colère est une émotion qui nous fait monter en tension et dans les tours, des fois. Hein. Il poursuit « Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Alors, après avoir répondu avec nos émotions, nous devons apaiser notre colère en faisant un retour sur nous-mêmes pour nous rendre compte que la situation n'est pas bonne et faire appel au Saint-Esprit pour qu'il apaise nos émotions et donc notre colère. Paul dit « avant le coucher du soleil ». Moi, j'aurais tendance à dire « disputez-vous le matin, comme ça vous avez plus de temps pour... Hein ?» Bon, c'est une blagounette, hein. Paul termine ainsi « Ne donnez aucune prise au diable. » La colère, confrontation émotionnelle sans violence entre époux dans ce cas précis, elle peut être une bonne chose si elle se résout d'une façon spirituelle par le pardon et la réconciliation. Dans la marche par l'esprit, chaque chrétien doit prendre conscience qu'une situation conflictuelle est un acte de désordre devant Dieu. Moi, quand je me dispute avec Wardia, je suis très énervé, j'arrive même pas à lui pardonner, et puis je réfléchis. Donc, oui, c'est vrai, c'est un acte de désordre devant Dieu. Que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, acteurs de ce désordre. Je dis toujours, c'est de sa faute. Mais je me dis, mais je suis quand même parti pris dans la bagarre, dans la dispute. Donc, moi, je suis concerné. Et que persévérer dans ce désordre ouvre une large porte à Satan, qui plante dans notre cœur des racines d'amertume. Donc le pardon est une arme spirituelle qui ferme la porte à l'ennemi. Et avec Wardia, mon épouse, je n'ai pas le souvenir de conflits sans pardon rapide, réel et profond. Comme vous le voyez, frères et sœurs, marcher par l'Esprit, ce n'est pas être spectateur de ce que le Saint-Esprit fait en nous, mais être acteur, partenaire de ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. L'un des plus beaux exemples que je connaisse de marche par l'Esprit se trouve dans le livre de Job, au chapitre 2. Satan dit à Dieu, « Porte la main sur Job, sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Job fut atteint d'une douloureuse maladie de peau qui toucha tout son corps. Vous savez, moi, quand je suis malade, j'ai pas bon caractère. Voilà. Alors sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Qu'aurions-nous répondu à cette phrase charnelle, très décourageante? Moi, si Wardia m'avait dit ça, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, « Ouais, toujours pareil, tu n'es pas un soutien pour moi, tu ne m'encourages pas, etc. » Qu'est-ce que Job lui a répondu? Il lui a dit, « Tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur ?» Eh bien, cette phrase pleine de sagesse, pleine de vérité, clôt les conflits et ferme la porte à Satan. Puissions-nous toujours agir avec un tel esprit de sagesse en marchant par l'Esprit? Bon, frères et sœurs, maintenant il est grand temps de conclure, parce que je crois que je vous ai beaucoup occupé. Comme Paul, nous sommes engagés dans un combat spirituel sans merci, avec les forces du mal. Je pense que vous en avez pris conscience. Ce combat est déjà gagné en Jésus-Christ, pourvu que par la foi, nous nous approprions cette victoire. Soyons vigilants, veillons et prions, marchons résolument par la foi, soyons fervents d'esprit, persévérons avec Dieu malgré les épreuves, et comme Paul, nous pourrons dire, « Eh bien, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Merci pour votre écoute attentive.